Dimanche dernier, donc, nous nous sommes arrêtés à présenter la première épître de l'apôtre Pierre. Une brève introduction générale, suivie, fait inhabituel, de la lecture complète de la lettre, puis une courte conclusion provisoire, momentanée. Aujourd'hui, je voudrais lire le début de la lettre. Je le lirai dans la traduction Tob, qui est un tout petit peu différente de notre Méguère. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Le texte ajoute « élu » pour la compréhension, mais qui ne se trouve pas dans le grec. « Élu selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, grâce et paix vous soient multiplié. » Pierre s'adresse aux élus. Un certain temps, il a été compris que ces élus devaient être d'origine juive à cause du mot diaspora, dispersion, qui se trouve dans le texte. Mais de toute évidence, ce que l'apôtre Paul écrit s'adresse à des anciens païens, gagnés à l'évangile de Jésus-Christ. Élus, dit le texte. Il s'adresse à ceux qui ont fait l'objet d'un choix divin et qui y ont répondu. Le choix que Dieu a fait n'est absolument pas aléatoire. Il n'est pas un choix hasardeux, comme s'il dépendait d'événements incertains. Ce choix, cette élection, car c'est le même mot, procède d'une décision éclairée de Dieu. Et Pierre instruit ses lecteurs de ce qui est l'essence même de cette décision divine et de sa mise en œuvre. C'est ainsi que trois prépositions vont orienter sa transmission et notre compréhension de ses paroles. Selon, par et pour. Il dit aux élus, donc, selon la préscience de Dieu le Père. Il définit ainsi la modalité de ce choix, le principe du choix lui-même. Puis, il va parler de l'instrument ou de l'artisan de ce choix par la sanctification de l'Esprit, pour ajouter enfin, le moyen d'y parvenir, le but, l'obéissance, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter à cela quelques instants pour revenir un peu, puisque là on a sauté une petite partie, pour revenir un peu ensuite aux termes qui sont tout à fait au début, celui d'étranger et de disperser, dans notre traduction second. Le mode de l'élection. Le mot lui-même est un mot de Dieu qui parle de sa préscience dans notre texte et traduit souvent « dessein » dans les traductions plus récentes. Le mot est, d'après le dictionnaire Bailly, l'expression d'une connaissance anticipée, c'est-à-dire que le dessein de Dieu exprime une intention, une idée précise qu'il a eue de faire quelque chose. Et cette intention était bien arrêtée. Il s'agit d'un projet bien bâti. Le texte biblique précise bien que ce projet, cette volonté de Dieu, plonge ses racines hors du temps des hommes. C'est dans l'éternité de Dieu que surgit une telle volonté. Nous connaissons le texte d'Éphésiens 1:4 où il nous est précisé de la plume de l'apôtre Paul, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et selon 2 Timothée 1 au verset 9, Dieu nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce, cette grâce qui nous avait été donnée avant les temps éternels dans le Christ Jésus, avant même que le temps n'ait commencé. Déjà, le choix de Dieu était arrêté. Déjà, vous, moi et des millions d'autres étaient précisément dans la pensée de Dieu. Déjà, nous avions notre place en sa présence, alors que nous étions loin d'être. Le dessein prothésis en grec, c'est l'action de placer devant, si j'ose dire, dans ce temps où le temps n'existe pas, à ce moment qui échappe à nos investigations. Dieu nous avait d'une certaine manière placé devant ses yeux, bien en évidence, pour ne pas, si j'ose dire et qu'il me pardonne, courir le risque de nous oublier. Le dessein de Dieu, d'après le mot qui est ici utilisé, c'est le fait de nous avoir placés devant lui, comme un pense-bête, pour pouvoir toujours agir en vue de cela. Tant et si bien que dans la suite, il nous a appelés. Le salut et la vocation qui l'accompagne, l'appel qui l'accompagne, sont la manifestation tangible de cette pensée insaisissable pour nous, d'un Dieu qui a déjà prévu, qui a connu d'avance ce qu'il allait faire et qui et en qui il allait le faire. L'agent de cette élection, de ce choix, n'est autre que l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu. Il a en charge de mettre en œuvre ce plan, ce projet, ce dessein. Lui, Jésus le précisera, a pour mission de convaincre les hommes, de les conduire au pied de la croix, c'est-à-dire au pied même de Dieu. L'Esprit accomplit cette action par une œuvre de séparation. Le texte nous le dit avec le mot « sanctification ». Nous savons très bien ce qu'il signifie. C'est mettre à part quelqu'un pour Dieu. Quelqu'un ou quelque chose, puisqu'il peut s'agir d'une terre sainte, parce que Dieu s'y trouve, Des chaudrons du temple destinés au service de Dieu et exclusivement destinés au service de Dieu, des êtres humains destinés à servir Dieu, à être faits enfants de Dieu. L'Esprit doit accomplir cette tâche. C'est lui qui va œuvrer de telle façon, comme le dit Actes 13, 48, que ceux qui sont destinés à la vie croient. Il va faire concourir toutes choses en vue de cette réponse que l'homme va lui donner. Sans être téléguidé, sans être contraint, je ne peux pas l'expliquer. D'ailleurs, qui saurait expliquer, sans porter atteinte à la souveraineté divine, ce qu'est le libre arbitre de l'homme? En tout cas, les Juifs ont refusé la parole de l'Évangile, les païens l'ont acceptée, et le texte dit, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, 48, comme je viens de le dire. L'Esprit de Dieu déclare, si j'ose dire, l'appropriation par Dieu de ceux qu'il appelle à la vie. Ils deviennent siens, parce que l'Esprit de Dieu va tracer une frontière entre eux et les autres, parce que l'Esprit de Dieu va les consacrer pour Dieu lui-même. Tant et si bien que celui qui prédestine est en saint, celui qui agit est en saint, les disciples ne pourront être que saints. C'est en tout cas ce que nous aurons l'occasion de voir dans la suite du texte, à telle enseigne que le texte dit dans 1,15 qu'ils doivent être saints dans toute leur conduite. Dans toute leur conduite, il doit y avoir la marque, le sceau de cette appartenance à Dieu, de cette mise à part pour Dieu. Nous y reviendrons. Par ailleurs, l'apôtre Paul lui-même précise la condition de cette réalisation, de la réalisation de ce choix, de l'entrée effective dans ce choix. Dieu nous a choisis dès le commencement, dit-il dans 2 Thessaloniciens 2,13, pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu nous a choisis par la sanctification de l'Esprit et par la foi. Cette foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Et l'Esprit de Dieu va produire en nous cette démarche. Lorsque nous mettons à part pour Dieu, il va mettre en nous ce vouloir et ce faire pour pouvoir répondre à l'appel divin. Et le but qui apparaît dans cette lettre de Pierre, le moyen d'y parvenir, nous surprend quelque peu, surtout dans l'ordre dans lequel il est énoncé. Vous l'avez vous-même remarqué dans la traduction Second, pour qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Dans la traduction interlinéaire, il est bien dit tout simplement pour l'obéissance, pardon, et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pour l'obéissance, d'abord, c'est curieux, et l'aspersion du sang de Christ, ensuite. Qu'est-ce à dire? Apparemment, ce qui est demandé de l'élu, de l'homme qui entend l'évangile, de celui qui est destiné à la vie éternelle, c'est que il réponde à l'appel qui lui est adressé. Qu'il rende effective cette mise à part effectuée par l'Esprit de Dieu, par la sanctification. Cette obéissance devient acquiescement. Cette obéissance est ouverture de cœur. Elle est soumission de l'esprit. Elle est adhésion. Et j'aime beaucoup, vous le savez pour l'avoir déjà entendu, l'expression de Chouraki dans sa traduction du Nouveau Testament pour un pacte neuf. Lorsqu'il parle de foi, il n'utilise pas le mot foi. Il utilise le mot adhérence, ce qui nous surprend grandement. Adhérence. Qu'est-ce que cette adhérence à la vérité? Puisqu'ici, dans Thessaloniciens, il était question de la foi en la vérité. Que veut dire Chouraki? Il fait allusion à une chose. L'adhérence est un état d'une chose qui tient à une autre par un contact étroit, fortement attaché, collé, jusqu'à devenir inséparable. L'adhérence à la vérité. Cette action de, je ne dirais pas de se l'approprier, car personne ne peut s'approprier la vérité, mais d'être plutôt approprié par elle, d'être rattaché à elle. C'est la disposition de cœur qui résulte de l'œuvre de l'esprit et qui va permettre d'être au bénéfice de l'aspersion du sang de Christ. Prenez un exemple tout simple, il est connu de tous. Nous allons nous transporter en Égypte, quelque part autour du 15e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu un déferlement de jugement. Et voici que le dernier est annoncé. Il a pour nom la mort des premiers-nés. Vous savez que l'ange de l'Éternel va passer de maison en maison dans ce pays. Et que tous les premiers-nés mourront. La seule garantie ne repose pas sur la qualité des occupants de cette maison, car il n'y aura aucune distinction, quelle que soit la maison et qui que soit qu'il habite, l'ange de l'Éternel passera. La seule restriction, elle provient de l'obéissance de ceux qui ont sacrifié un agneau comme le demande Dieu et qui ont pris le sang et l'ont mis sur le linteau et les poteaux des portes. C'est l'obéissance à l'ordre de Dieu qui fera bénéficier les occupants de la maison de l'aspersion du sang. Il a fallu qu'ils obéissent pour passer au travers du jugement. Dieu agit, il nous élit, il nous sanctifie, pour que nous ayons cette disposition à obéir, afin d'entrer dans le pardon de la grâce. Ce n'est pas l'obéissance qui nous fait gagner la chose. Elle n'a aucun mérite. Et les simples réponses à l'appel de Dieu qui va appliquer à nos cœurs l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. L'aspersion du sang de Christ, de toute évidence, l'auteur fait allusion à l'Ancien Testament, au sacrifice qui était offert. Nous n'allons pas, bien sûr, reparler de tout cela, mais si vous vouliez jeter un tout petit coup d'œil dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, vous pourriez alors prendre conscience du parallélisme et des différences qu'il y a entre les sacrifices de l'Ancien Testament et celui réalisé en la personne même de Jésus-Christ. Et c'est le sang de Christ, dit Hébreux 9, 14. C'est le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Et il purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. Nous n'allons pas reprendre tous ces textes, mais simplement ce rappel d'une action accomplie par Jésus-Christ, dont nous ne serons bénéficiaires que dans la mesure où nous nous conformons à ce que Dieu nous a demandé. Et cela pour que nous croyions au Fils, que nous agissions aussi en son nom. À ses élus, à ceux qui croient au nom du Fils de Dieu, dira Jean, il assure que le sang de Jésus les purifie de tout péché. Il précise que Jésus-Christ, le juste, est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Élu, donc, selon la prescience de Dieu le Père, selon le dessein du Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Christ, appelé, mis à part, obéissant, pardonné, tranquille. Comme diraient les jeunes, tout baigne. Effectivement, on a l'impression que rien ne peut troubler une telle situation. Mais c'est à ces élus, à ceux-là qui ont été mis à part et qui devraient être tranquilles, que Pierre écrit. Et il les définit comme vivant un étranger dans la dispersion. Et cela sur un vaste territoire. L'essentiel de la Turquie d'aujourd'hui. Énorme. Ce sont des hommes et des femmes qui, d'après le mot qui est utilisé et traduit par la Tobe, vivant un étranger, sont des personnes qui séjournent ou voyagent, je vous donne la traduction du bailli, qui séjournent ou voyagent peu de temps en pays étranger. Le terme est plus explicite, plus imagé que celui de xénos, utilisé habituellement pour kénos, pour l'étranger. Nous en avons fait xénophobie. C'est le mot, c'est cela. C'est la phobie de l'étranger. Ici, l'apôtre Pierre inscrit ses élus dans la ligne même d'Abraham. Reprenez donc Hébreux 11 et vous le constaterez dans ce chapitre où il est question des héros de la foi. Il y a quelques versets qui sont assez explicites concernant Abraham. C'est par la foi, dit le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bien sûr, on pourrait s'appesantir là-dessus, mais nous y viendrons encore. Peu pour un peu de temps en pays étranger. Ce sont les élus dont il est question dans 1 Pierre. Et de surcroît, dispersé, disséminé, dans un vaste territoire. On reconnaît un peu la situation que décrit Néhémie, mais la différence est tout de même importante. Car si du temps de Néhémie, ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient au moins réunis dans un ensemble restreint, dans un ensemble bien délimité, bien circonscrit, celui des murailles de la ville de Jérusalem. Mais les églises d'Asie mineure sont peu nombreuses et éloignées les unes des autres. Et très souvent, même, elles ne regroupent qu'un petit nombre de croyants. Cela met en relief leur précarité. Convenons qu'il n'y a guère de différence entre les églises d'Asie mineure et les églises de notre temps. Car même si, comme cela arrive, il y a des églises numériquement fortes, bien installées, leurs membres, au même titre que les membres d'églises plus petites, sont étrangers et de passage, dans un lieu qui n'est pas le leur, dans un lieu qui ne les reconnaît plus, car ils ne sont pas reconnus par ceux qui sont autour d'eux. Les élus d'aujourd'hui, à partir du moment où ils ont été naturalisés, enfants de Dieu, membres du royaume de Dieu, sont devenus étranges à leurs contemporains. Tellement étranges qu'ils en sont devenus étrangers. Car c'est l'étrangeté qui fait le statut d'étranger. C'est celui que l'on ne comprend pas, celui que l'on n'approuve pas, celui dont les habitudes dérangent, celui qui devient insupportable par les exigences de sa vie. Il ne faut donc pas s'étonner si nous trouvons dans ce monde sans Dieu, un monde livré à ses passions par Dieu lui-même. Romains 1 nous le rappelle bien. Il ne faut pas s'étonner que dans un monde qui se délecte d'avoir brisé tout lien et toute contrainte vis-à-vis de Dieu, ceux qui se plaisent dans la compagnie de Dieu ne soient pas particulièrement appréciés. Pierre en parlera. Pierre s'adresse donc à ces élus qui ont été arrachés, extirpés d'une marmite bouillonnante. Et cela selon le dessein de Dieu. Et à cela, à ces hommes, à ces femmes, Pierre va prodiguer conseils, exhortations, encouragements pour leur vie pratique, pour leur vie positive, dans un contexte franchement hostile. Nous allons donc découvrir cela au fur et à mesure de notre avance. Je voudrais simplement conclure en donnant à l'apôtre Paul des paroles qui nous aident à saisir le sens de la vocation. Dans Philippiens 2, voici les versets 14 et 15, bien connus. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez, comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. C'est ce à quoi les lecteurs, les élus, les choisis auxquels s'adresse Pierre sont invités par l'apôtre. C'est ce à quoi, je pense, l'apôtre nous invitera aussi dans les semaines à venir. Que Dieu nous aide dans cette démarche. Amen.